L'histoire des scouts de France, 5e épisode, avec Philippe Lanéry, chercheur au CNRS, à partir de son gros livre « Les scouts de France, l'évolution du mouvement des origines aux années 80 ». 5 émissions, nous sommes revenus donc à l'époque de Baden-Powell, et en 4 enjambées, nous sommes aux années 60. Après les mutations, les divergences, c'était notre dernière émission. Les divergences, en fait, c'est la réforme, si on peut dire, le bouteux, et c'est la première séparation objective avec la création des scouts d'Europe, formule française.
C'est ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a également une cristallisation des conflits qui sont provoqués à l'intérieur même du mouvement des scouts de France. Parce que si beaucoup de responsables de l'époque refusent d'admettre la réforme, ou en tout cas la critique considérablement, ils ne quittent pas pour autant le mouvement, mais des tensions subsistent.
Alors vous nous avez parlé des uniformes, vous nous avez parlé de l'exigence renouvelée vis-à-vis de l'Église et en particulier des aumôniers, et puis tout la dernière émission se terminait sur le rapport à la nature.
Oui, la différence, le véritable bouleversement que représente ce rapport à la nature, qui a toujours été un rapport privilégié pour les scouts, cette vision complètement différente de la nature qui est proposée aux scouts des années 60.
Plus tellement un lieu de contemplation qu'un lieu de transformation.
Voilà. Les années 60. Alors les années 60, je serais presque tenté, si ça n'était pas un petit peu prétentieux, de les appeler les années terribles pour le mouvement. Parce que en 5 ans, de 63 à 68, ils vont subir le choc de 3 crises vraiment considérables. On a évoqué la première avec la réforme de Le Bouteux et de son équipe pour la branche éclaireur, la séparation Pioneer Rangers et tout ce qu'il y a derrière, et toute la nouvelle conception du scoutisme qu'il y a derrière. Et la seconde crise va être provoquée par l'après-concile. Bien, j'ai dit en concluant peut-être, je me souviens avoir dit en concluant l'émission précédente, que les scouts de Le Bouteux, les pionniers, étaient tout aussi chrétiens que les scouts de l'époque précédente, mais qu'ils l'étaient différemment. Et c'est en cela que le clergé post-conciliaire, ou du moins une bonne partie de ce clergé, c'est cela qu'il ne comprend pas. On en arrive ici à la deuxième crise que doivent affronter les scouts de France à partir de la fin du Concile Vatican II en 65. L'aile marchande de l'Église post-conciliaire tend brusquement à rejeter en bloc le scoutisme, qu'elle considère comme un appareil subalterne, inefficace, obsolète, inadapté aux orientations globales du Concile telles qu'elle les comprenait. Les scouts de France sont accusés d'être une institution d'essence élitiste et réactionnaire, qui coupe ses membres de la masse, qui embourgeoise les fils d'ouvriers, etc. Bon. Ça se comprend, ça s'explique, dans la mesure où, avec ce qu'on pourrait appeler l'intransigeance du converti, l'Église post-conciliaire, ou plus précisément une partie d'entre elles, son aile la plus maximaliste, si vous voulez, par rapport aux orientations conciliaires, développe une pastorale plus ou moins ouvriériste, et en tout cas exclusive de l'ACE, de l'Action catholique de l'enfance, et de l'aumônerie des mouvements éducatifs, sauf peut-être les mouvements ouvriers, la JOC, le MPF, etc. Et ça se comprend aussi si l'on se souvient que la plupart des prêtres de 65-66 ont du scoutisme une vision un peu surannée. Ils le voient tel qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, 10 ou 20 ans auparavant. Ils ne tiennent donc pas compte du gros effort d'aggiornamento qui vient précisément d'être accompli, tant à la route qu'à la branche des adolescents. En tout cas, le résultat est là. De nombreuses unités sont expulsées des locaux paroissiaux, et ou bien elles sont privées d'aumôniers. Alors, il y a des exceptions, notamment des prêtres de la Mission de France qui encadrent le mouvement à partir de cette époque. Le père Morel, le père Perrault, le père Marchand, le père Debrune, ce sont des noms qui disent peut-être quelque chose à ceux qui ont été scouts il y a 10 ou 15 ans. Toujours est-il que la situation des scouts de France, qui sont déjà affaiblis par des tensions internes, et qui sont en bonne partie lâchés par l'Église post-conciliaire, est déjà dramatique quand arrive mai 68. C'est la troisième crise en 5 ans, il faut le rappeler. Même pour un mouvement plein de vitalité, ça fait quand même beaucoup. Les effets de 68, qui d'ailleurs se font surtout sentir dans les années suivantes, de 69 à 71, des tas de chefs qui sont déboussolés. Beaucoup d'entre eux sont étudiants, il ne faut pas l'oublier. D'autres quittent le mouvement. D'autres enfin développent des idées 68ardes telles que, ou post-68ardes telles que la non-directivité, le procès de libération de l'enfant, la prise en compte de l'ordre du désir. Ça se traduit par une véritable désarticulation de l'encadrement, du haut en bas de la pyramide des responsables. Et cette désarticulation, notamment, elle est marquée par des conflits, par des évictions. Bon, le commissaire général Michel Rigal démissionne. C'est Émile Vissot qui le remplace et qui, lentement, dans les années 70, va essayer de recoller les morceaux. On en arrive à la Trivale, le grand rassemblement de la Trivale en 1973. La Trivale, c'est un petit village dans le Midi. À cette époque, le mouvement est au plus bas. Il a perdu plus de la moitié de ses effectifs de 63. En 63, il y avait 130 000 scouts. Il n'y en a plus que 60 000 à peu près. Et surtout, ceux qui restent ne savent plus guère pourquoi ils sont là et à quoi va servir le scoutisme dans le monde des années 70. Quand on lit le compte-rendu des journées de la Trivale, on se rend compte à quel point les responsables qui sont là pourtant, hein, ceux qui sont là, qui sont venus à la Trivale, qui croient encore à quelque chose, mais qui ne savent plus très bien à quoi. Y compris, il y a cette phrase terrible, par exemple, qui a été sortie par un responsable scout à la Trivale. Les chefs portent la foi comme une corvée. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils ne savent plus comment la faire passer. Ils se posent des questions sur leur propre foi eux-mêmes. Et pourtant, ils sont encore là. Ils sont encore là, mais ils se posent vraiment des questions fondamentales. Est-ce que le scoutisme va mourir à cette époque? Est-ce que la Trivale, ça va être le... D'autant que les responsables nationaux ne disent rien à la Trivale. Ils laissent s'exprimer ceux qui sont là, les responsables scouts et guides de base, qui sont d'ailleurs réunis. Mais ils ne disent rien. Et il n'y a pas de directive, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'orientation. Peut-être même sont-ils encore hésitants. Donc c'est une période vraiment cruciale, vraiment terrible. Et puis, petit à petit, ça va repartir. Et on en arrive à la dernière phase, qui est au fond la phase actuelle. Depuis 1975, c'est une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre dans un milieu plus calme, dans un environnement qui est moins tourmenté. Équilibre entre les propositions de Baden-Powell et la tradition française. On fait retour à Baden-Powell, très sérieusement. Hein, et d'ailleurs sort à ce moment-là un livre qui est le premier livre sérieux qui a été écrit sur la méthode éducative de Baden-Powell depuis le Percevin en 1923 ou 24, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est dans les années 20, qui s'appelle Baden-Powell aujourd'hui. Et qui est une analyse tout à fait remarquable de la pensée pédagogique de Baden-Powell et notamment de son adaptabilité. On fait retour aussi, on revalorise en même temps ce que j'appelle le corpus sacré du scoutisme, c'est-à-dire la loi, la promesse, qui était un petit peu tombée en désuétude, notamment après les années 68, après 68. Et puis en même temps, on travaille énormément la pédagogie.
Alors cette étape importante dont vous faites allusion, la Trivale,
La Trivale.
La Trivale, oui, je ne connais vraiment pas. Mais par contre, Michel Raveau, vous qui faites partie de l'équipe départementale actuelle de Lyon, vous y étiez.
J'en étais, et je me trouvais au milieu de 10 000 scouts et guides de France qui s'étaient retrouvés dans ce lieu dit. C'était un désert complet dans la Garrigue, à 50 km au nord de Montpellier. Un lieu de camp qui avait été aménagé avec toutes les ressources du bord, y compris avec un réservoir d'eau. L'eau avait été amenée, enfin, tout ça, on avait des douches et tout ça. C'était absolument formidable.
Et c'était la première fois qu'il y avait un grand rassemblement scout et guide de France en même temps?
Non, il s'en était produit à Rome plusieurs fois, puis enfin à Jeanville aussi, on se retrouve assez souvent quand même.
Alors justement, vous-même, vous êtes allé à Rome et vous avez des souvenirs, entre autres, lors d'un grand discours de Paul VI.
Oui, c'était au moment où il lançait son encyclique, et on se trouvait, c'était à Pâques justement, et on se trouvait...
En quelle année?
Je crois que c'était en 67, on se trouvait avec les guides également, à Rome on a eu une audience évidemment pontificale, mais surtout c'était le lancement de l'encyclique à l'époque, et on a pris ça comme notre charte d'ailleurs.
Vous pouvez nous rappeler l'encyclique?
Je crois que c'était Populorum Progressio, et nous en avons fait notre charte.
Merci.
Oui, alors donc... Et si vous voulez, toute cette période qui a suivi la Trivale, enfin, et qui est marquée par une remontée, à la fois théorique, si je puis dire, et pédagogique de la méthode scout, spirituelle aussi, est accompagnée par une remontée des effectifs. Les effectifs commencent à remonter à partir de 75 à peu près. Et on en arrive à 80 000 maintenant, si vous voulez. C'est une remontée qui est relativement lente, mais qui est significative, parce qu'elle s'étend maintenant depuis une dizaine d'années de façon à peu près constante. Et je crois, si vous voulez, pour conclure, que ça n'est pas fini. Pour plusieurs raisons. Le scoutisme, bien compris, reste une méthode pédagogique qui est à la fois irremplaçable et évolutive. La pédagogie scout, elle tape souvent dans le mille, c'est vrai. Exemple, bon, ça n'est pas par hasard que François Le Bouteux, l'auteur de la réforme de 63, est aujourd'hui au ministère chargé de l'application concrète des TUC, de son application et son développement. Bon, en 63, il se préoccupait de rendre aux adolescents la conscience de leur utilité sociale. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, 20 ans après, dans un contexte tout à fait différent? Qu'est-ce qu'il fait sinon tenter de rendre aux jeunes chômeurs la conscience qu'ils peuvent être, qu'ils doivent être socialement utiles? Qu'en fait, le pays, la société a besoin des tâches qu'ils assurent dans le cadre des TUC. Tâches qui étaient souvent négligées auparavant. Parce qu'en période de croissance rapide, on laisse des tas de détails en chemin, on les néglige, quitte à s'apercevoir un peu plus tard, et un peu tard, que ce ne sont pas forcément des détails. Autre exemple. Je regardais l'autre jour à la télévision une émission qui était consacrée aux loisirs d'été des jeunes défavorisés. Les jeunes des banlieues des grandes villes notamment, ceux que l'on appelle parfois du mot horrible et absurde de pré-délinquants. Ceux d'entre vous qui ont vu cette émission, en fait elle date du mois de juin, qui avait débuté une émission qui avait débuté par un petit discours de Georgina Dufoy et une chanson de Karim Cassel. Ils ont pu voir ensuite les diverses activités proposées par des animateurs, eux-mêmes aidés par les pouvoirs publics. Alors animateurs fonctionnaires ou non, éducateurs divers. Là-dedans, il y avait des activités comme de l'alpinisme. Il y avait de l'escalade sur des rochers d'entraînement de la région de Chamonix. Ou bien encore de la moto sur le circuit du Castellet avec de la mécanique, du démontage-remontage de moteurs, etc. Bon, mais c'est ce que faisaient les scouts à l'époque de Menu. Mais il y avait aussi cette superbe fresque qui a été peinte par les jeunes du quartier sur la façade aveugle d'un immense HLM de la banlieue parisienne. C'est exactement le type de chantier que proposait Le Bouteux dans les années 60. Et quand on voyait, quand on constatait la fierté de ces jeunes une fois leur tâche achevée, ces jeunes soi-disant pré-délinquants qui avaient ensemble créé de la beauté dans leur quartier, mais on se disait, on ne pouvait pas ne pas se dire, mon Dieu, les éducateurs scouts des années 50 et 60, ils étaient quand même pas si bêtes que ça. Je voudrais dire aussi pour conclure que les scouts de maintenant, de 85, ils n'ont peut-être pas conscience, pas tous en tout cas, et de la richesse de leur histoire, dans laquelle il y a eu du sang et des larmes, comme disait Churchill, mais aussi des résultats extraordinaires. Et notamment la persistance chez bien des adultes d'un certain esprit scout, y compris à des postes de responsabilité. Un esprit de service, je veux dire par là une certaine vision de la cité, un certain idéal, n'ayons pas peur de ce mot qui désigne ce qui permet de vivre. Et aussi par voie de conséquence du rôle social extraordinaire qu'a joué le scoutisme en France au XXe siècle. C'est le mouvement éducatif le plus nombreux. Bon, il y a plus d'un million de personnes qui sont passées par le scoutisme des scouts de France depuis 1920, dont plusieurs centaines de milliers en ont, je pense, été durablement marquées, même si parfois elles n'en ont pas forcément clairement conscience. C'est le mouvement le plus important en nombre, mais c'est aussi le seul, scouts catholiques et mouvements voisins, enfin, éclaireurs éclaireuses de France, éclaireurs unionistes, éclaireurs israélites de France, etc., qui ait pris en compte la pédagogie des adolescents. Parce que les mouvements d'action catholique s'adressent à des jeunes gens et ce sont des mouvements de milieu. Le scoutisme, lui, s'adresse aux jeunes de 8 à 20 ans. Mais surtout à l'adolescent de 13, 14 à 16, 17 ans. Et il s'ouvre à toutes les classes, il s'ouvre à toutes les catégories sociales. Et ça, bon, avec des hauts et des bas, c'est vrai, depuis maintenant 65 ans, hein, pour ce qui concerne les scouts de France. Et plus encore pour ce qui concerne les éclaireurs et les laïcs et les éclaireurs unionistes. Il faudra bien un jour que les historiens reconnaissent l'impact et l'importance sur la société française du scoutisme et de son influence.
Justement, Philippe Tanéry, en fait, vous nous invitez à une prospective encore. On voit bien que l'histoire ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais il y a des points sur lesquels on aura l'occasion de revenir, sûrement dans une émission face au public. Mais vous nous avez parlé des scouts d'Europe, de leur apparition. Et vous nous avez absolument pas parlé des scouts unitaires. Est-ce que vous pouvez les situer dans cette chronologie et aussi dans, au fond, ce pourquoi ils ont eu à naître?
Alors écoutez, les scouts unitaires sont nés à peu près en... il me semble qu'ils sont nés en 71, j'ai plus la date précise en tête, mais disons c'est au tout début des années 70. C'est une autre scission qui a affecté les scouts de France.
Alors sur quoi elle jouait justement?
Disons qu'elle les jouait sur expérience faite, si vous voulez. La partie émergée de ce que j'appelais la partie émergée de l'iceberg antérieurement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la séparation en tranche d'âge du système des patrouilles. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont conservé des patrouilles avec un chef de patrouille de 15-16 ans, un second à peu près du même âge ou un petit peu plus jeune, et puis une patrouille de 5 ou 6 garçons s'échelonnant jusqu'à 12 ans. Autrement dit, ils ont refusé la séparation Pioneer Rangers dans ce qu'elle avait de systématique. Mais cela dit, les scouts unitaires se situent également... je dirais presque à mi-chemin entre les scouts d'Europe et les scouts de France, c'est-à-dire qu'ils sont moins éloignés des scouts de France que ne le sont, semble-t-il, les scouts d'Europe actuels. Il y existe des points de convergence qui peut-être d'ailleurs laissent espérer un rapprochement plus conséquent et peut-être plus institutionnel dans les années qui viennent, je n'en sais rien, hein, mais ça n'est pas exclu.
Donc vous marquez la différence sur le plan de la pédagogie. Est-ce qu'on peut dire aussi sur la place de la dimension spirituelle?
Sur la place de la dimension spirituelle entre les scouts de France et les autres branches du scoutisme catholique. Alors écoutez, sur les scouts unitaires, moi j'ai travaillé surtout sur les scouts de France, c'est-à-dire que je connais beaucoup moins bien la question. Hein. Mmh. Je pense qu'ils sont un peu plus traditionnalistes que les scouts de France sur ce plan-là, mais je ne saurais pas en dire beaucoup plus, hein, là-dessus.
Parce que les conséquences de la réforme Le Bouteux, toute cette dynamique, au fond, de présence au monde, de sécularisation, est-ce qu'elle n'a pas tendance à minimiser, au fond, l'appartenance chrétienne et la tendance vraiment de l'ordre religieux qu'on a vu poindre vers les années 50?
Alors écoutez, là, je crois que vous posez deux questions en une, parce que on ne peut pas mettre sur le même plan l'appartenance à un ordre religieux et le christianisme. On peut tout à fait être chrétien sans être tenté par un ordre religieux, n'est-ce pas?
Non, mais je fais allusion à Donker et à tout ce qui a suivi.
Oui, alors, effectivement, c'est là-dessus que ça porte. C'est-à-dire que c'est sur la conception même du christianisme vécu que porte la divergence à ce niveau-là. Bon, pour dire les choses de façon simple, mais par conséquent un petit peu caricaturale aussi, disons que les scouts d'Europe, les scouts unitaires et une partie des traditionnalistes des scouts de France se sentent beaucoup plus proches de la conception du Père Donker que de la conception d'une église tout à fait évolutive. Au fond, comment pourrait-on résumer ça? Les traditionnalistes dans le scoutisme mettent au tout premier plan tout ce qui est pérenne, tout ce qui est transhistorique. Donc évidemment la tradition, mais également les fondements même, les bases même de ce qu'ils considèrent être l'Église catholique. Les évolutionnistes, si je puis dire, mettent en avant le vivant, c'est-à-dire le jeune tel qu'il est. Hein, ils le prennent tel qu'il est, ils le suivent tel qu'il est, ils l'accompagnent tel qu'il est, et bien entendu... ils sont beaucoup plus dans la mouvance d'une église qui, elle-même, en bonne partie, cherche aussi à coller, non pas au monde dans le sens péjoratif qu'on lui donnait autrefois, mais à la vie telle qu'elle se manifeste dans ses diverses composantes sociales notamment.
Autre question, c'est un peu pour amorcer la discussion qu'on aura en direct avec les auditeurs, par rapport aux questions politiques. Donc cette adaptation du mouvement dans sa grande branche des scouts de France, cette adaptation du mouvement à la vie, au développement, on a vu comment après les années 40-45, il y a eu donc tout un recul par rapport aux questions politiques, en même temps qu'un engagement dans le monde, et c'était la guerre d'Algérie, c'était la vie nouvelle, etc. Il y a eu aussi toute une action des scouts par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir dans d'autres pays d'Europe un scoutisme qui évolue parallèlement au scout de France?
Oui, tout à fait, sauf que souvent, ce scoutisme-là vient de beaucoup moins loin. C'est-à-dire que le scoutisme anglo-saxon ou de tradition anglo-saxonne, par exemple, n'a pas eu beaucoup de mal. Il était évolutif dès le départ. Alors, je ne sais pas comment évolue, je ne l'ai pas étudié, hein, je ne sais pas du tout comment évolue le scoutisme dans un pays comme l'Espagne, par exemple, qui lui vient au courir de plus loin. Bon, il s'est développé dans une Espagne franquiste. Alors, ça, je n'en sais rien, peut-être que M. Ravo le sait mieux que moi.
J'ai fait plusieurs camps où je me suis trouvé avec des étrangers, notamment en Allemagne au début des années 50, où les scouts allemands qui se reformaient demandaient aux scouts de France de les aider à repartir dans le mouvement. J'ai également trouvé des Espagnols il n'y a pas très longtemps. Je viens de terminer un camp où je me suis trouvé avec un scout chilien, un représentant d'ailleurs assez haut du scoutisme chilien, qui vient en France se renseigner sur toutes les méthodes scout pour adapter son pays quand les situations seraient évoluées.
Monsieur Michel Ravo, en fait, c'est aussi l'année de la jeunesse, 85. Alors, les scouts, ils y participent?
Bien sûr, de tous les côtés d'ailleurs.
Et de quelle façon?
Pas très ostensible des fois, parce que souvent les gens s'imaginent qu'il n'y a plus de scouts parce qu'on n'a pas d'uniforme ou de tenue ostensible, mais enfin ils sont là.
En tout cas, on peut dire que à la mi-juillet, il y a un grand rassemblement, un jamboree, je crois, qu'on dit toujours comme ça.
Oui, c'est ça. C'est un rassemblement national, et non pas international cette fois, qui se trouvera à Janville, dans notre parc des scouts de France de Verrières Paris.
Et quand on dit jamboree, Janville, là on renoue vraiment avec l'histoire. Phil Blanery, au fond, le scoutisme, comme vous le dites, est loin de mourir.
Écoutez, vous dites on renoue avec l'histoire, je pense qu'on ne l'a jamais complètement quitté. Le père Liégé lui-même disait que, qui était pourtant tout à fait évolutionniste pour son époque, disait que un mouvement vivant a besoin de liturgie, mais ça va encore plus loin. Je crois que quand on emploie encore maintenant les termes jamboree, quand on fait allusion à Jambeville, peut-être qu'on parle encore aussi de cham, c'est-à-dire les chamarandes, ça fait allusion au parc d'un autre château dont les scouts de France ont été privés il y a très très longtemps, qui était chamarandes, au sud-est de la région parisienne, et au sud-ouest, pardon, eh bien, je crois que ces termes-là, ils maintiennent une tradition. Le contenu, lui, évolue. Le contenu, on ne fait certainement pas un camp-école ou un jamboree maintenant, comme on le faisait il y a 30 ans, c'est évident. Le contenu évolue beaucoup, il s'adapte. Mais pourquoi ne pas maintenir les termes? Bon, ça, la terminologie fait partie de la tradition.
Merci, monsieur Philippe Lanery. Merci, monsieur Michel Raveau. Merci pour tout ce travail fantastique d'historien. On sent que vous êtes un petit peu un témoin, mais vous êtes devenu un passionné.
Bah écoutez, je l'étais un petit peu au départ, parce que sinon je vous avoue que l'ampleur de ma tâche m'aurait rebuté rapidement. J'ai d'ailleurs eu très peur, hein. J'ai travaillé 4 ans à ce livre, j'ai eu très peur pendant au moins 2 ans de ne pas arriver à dominer le sujet, d'autant que ça n'avait jamais été fait. Et donc je n'avais pas de base pour ça. Mais enfin... Je suis quand même content d'avoir fini, hein, un petit peu comme tout ouvrier ou tout artisan qui achève une tâche, bonne ou mauvaise. Et ce qui me rend content aussi, ce qui me satisfait, c'est que je pense que beaucoup de scouts de France de maintenant accueillent ça sans défaveur, c'est-à-dire que ça les intéresse, ils ne sont pas seulement tournés vers le présent ou vers l'avenir, mais ça les intéresse aussi, je crois, de voir d'où ils viennent.
Donc on peut redire les coordonnées de ce livre qui résume donc tous vos travaux, les scouts de France, l'évolution du mouvement des origines aux années 80, un livre édité aux éditions du CERF, un livre de Philippe Lanery. Donc nous nous donnons rendez-vous pour un direct face et avec les auditeurs. Il y aura une espèce de table ronde avec historiens, théologiens et autres. L'histoire des scouts de France continue. Merci.